Bon réveil à tous, voici le journal de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le déficit inquiète l'exécutif. Emmanuel Macron réunissait hier soir les cadres de la majorité pour trouver de nouvelles pistes d'économie.
Le Sénat va-t-il signer la fin du CETA, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada? En tout cas, le groupe communiste pourrait infliger un revers à la majorité.
Le Sénat qui auditionnait hier la présidente de la Fondation Sciences Po, Laurence Bertrand d'Orléac, répondait aux questions, aux accusations d'antisémitisme contre l'institution. Face à un budget qui dérape, la recherche urgente d'économies, alors que l'INSEE doit révéler en début de semaine prochaine le chiffre définitif du déficit 2023 et que le gouvernement a déjà coupé 10 milliards d'euros de dépenses pour cette année, la trajectoire des finances publiques continue d'inquiéter l'exécutif. Hier soir, Emmanuel Macron recevait ministres et cadres de la majorité pour évoquer les pistes d'économie et le chef de l'État espère corriger le tir. Adrien Becht.
Emmanuel Macron a écouté sans se révéler, mais le message est clair, pas question de changer de paradigme, même s'il faudra prendre des décisions difficiles. Refus toujours des hausses d'impôts, pourtant timidement évoquées par certains autour de la table, et volonté de créer de la richesse à travers l'emploi, allusion à la future nouvelle réforme de l'assurance chômage. Pour le reste, il faudra bien des économies, faire en 4 ans ce qu'on devait faire en 5, prévient Bruno Le Maire, mais peu de pistes sont évoquées, raconte un participant, quand François Bayrou, de son côté, faisait part de son opposition à des économies sur les collectivités. Reste que des coupes. Il faudra en trouver. C'est Emmanuel Macron qui arbitrera. En attendant, le chef de l'État a joué les directeurs de campagne, appelant ses troupes à moins de commentaires, plus de mobilisation en vue des européennes, car du score de la majorité le 9 juin dépendra aussi la capacité politique de l'exécutif à faire accepter ses décisions budgétaires.
Adrien Becht. Et du côté du trou de la Sécu, il est réduit de près de 9 milliards en 2023 pour atteindre 10,8 milliards d'euros. Mais ce déficit reste quand même plus de 2 milliards au-dessus des prévisions. La majorité pourrait subir un sérieux revers aujourd'hui au Sénat, où le groupe communiste espère faire rejeter l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, appliqué provisoirement depuis 2017 et voté de justesse par l'Assemblée nationale en 2019. Il n'a jamais été complètement ratifié, le gouvernement n'avait jamais saisi le Sénat. Les sénateurs communistes ont donc décidé d'utiliser leur temps parlementaire pour proposer le projet de loi du gouvernement pour ratifier le traité. Ils espèrent ainsi une alliance gauche-droite de circonstances, et ce alors que la mobilisation contre les traités de libre-échange ainsi que la dénonciation de la concurrence déloyale qu'ils entraîneraient sont au cœur des mobilisations d'agriculteurs. Tous les syndicats se retrouvent sur ce point. Le vote sur le CETA a lieu alors que le Mercosur est toujours en discussion et qu'un accord avec la Nouvelle-Zélande a été conclu l'automne dernier. C'est donc l'ensemble de ces accords que les syndicats dénoncent. Arnaud Rousseau est le président de la FNSEA.
Nous, ce qu'on demande, c'est de la réciprocité. Donc on demande des mesures miroirs ou des clauses miroirs qui nous permettent de nous assurer que l'exigence européenne de production a une réciprocité, premier élément. Et on demande également qu'on puisse avoir un regard précis sur le cumul, parce que dans chaque accord commercial, souvent la question agricole peut concerner un petit volume de produits, mais dont le cumul rend les choses intenables. Je pense notamment à l'élevage ovin, dans lequel on peut avoir un cumul du Mercosur, de l'accord avec la Nouvelle-Zélande, de l'accord avec le Chili, qui rend finalement, regardez accord par accord, le volume relativement faible, mais cumulatif absolument insupportable. Cet accord du CETA, il est déjà en œuvre et est plutôt favorable sur le plan des exportations de vin et de produits laitiers, que sur les importations de viande bovine, il est relativement faible, et que donc, ça n'est pas le Canada que nous visons, mais plutôt la position de la Commission européenne, qui est une position que nous considérons comme étant incohérente. Le sujet n'est pas le CETA en tant que tel, c'est la doctrine d'emploi des accords de libre-échange. On a besoin de continuer à échanger. On le fait d'ailleurs en dehors des accords de libre-échange. L'Europe ne doit pas être fermée. La France a par ailleurs des intérêts offensifs, y compris sur le plan agricole. Ce qui nous préoccupe, c'est l'absence de réciprocité de la condition de production. On ne peut pas faire rentrer en France des produits qui ne respectent pas ni les normes ni les standards que l'Europe nous impose. Et donc, mettons de la cohérence. Si on met un haut niveau d'exigence sur la production européenne, mettons un haut niveau d'exigence sur les importations.
Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, au micro de Catherine Pétillon.
6h34 sur France Culture, la suite du journal de Laura Dulieu. À Bruxelles, les 27 États membres de l'Union européenne se réunissent en sommet aujourd'hui et demain.
Pour tenter de mieux armer l'Ukraine et de mieux s'armer eux-mêmes face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante, tandis que cette nuit, des explosions ont eu eu lieu dans le centre-ville de Kiev, une dizaine, ainsi que des tirs de défense anti-aérienne. Au lendemain de plusieurs frappes sur les territoires russes et ukrainiens, plusieurs civils ont été tués. En visite au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken annonce que les États-Unis ont présenté un projet de résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU, appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages dans la bande de Gaza. Mais les espoirs d'un arrêt des bombardements israéliens s'éloignent encore. Le Hamas juge négative la réponse d'Israël à sa proposition de trêve. Alors que dans l'enclave palestinienne, la famine menace chaque jour un peu plus la population. Le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas fait état de plus de 31 900 morts. À Sciences Po, Paris, après la réunion en soutien à la Palestine le 12 mars dans un amphithéâtre dont une étudiante juive s'était vue refuser l'accès, la présidente de la Fondation Sciences Po était auditionnée au Sénat hier pour éclaircir la situation et trancher entre les différentes versions. Laurence Bertrand d'Orléac rappelle que la manifestation était bien interdite. Elle s'est par ailleurs réjouie qu'une réunion entre les deux associations concernées, l'une pro-Israël, l'autre pro-Palestine, ait eu lieu, tout en rappelant que Sciences Po n'était en aucun cas une institution antisémite.
Nous ne chercherons jamais à nier que tel ou tel étudiant de Sciences Po ait pu tenir des propos antisémites. Chaque fois qu'un fait de cette nature nous est rapporté, nous enquêtons et nous sanctionnons. Nous n'acceptons pas davantage toute autre forme de racisme et de discrimination, de quelque nature qu'elle soit. L'intolérance, voire la haine, qui prospère sur des idées malsaines, n'ont pas leur place dans notre établissement. Notre époque est riche en conflits, en tragédies, qui suscitent des débats et des dissensions. Les réseaux sociaux aggravent ces maux en les amplifiant tout en les réduisant à la plus médiocre et la plus nuisible des formes d'expression. La jeune génération étudiante est exposée aux tensions, est exposée aux excès. Notre rôle est d'abord de l'aider en tenant fermement sur nos bases et nos principes de respect de la science et des libertés académiques. Étudier, apprendre, chercher, s'interroger, raisonner, dialoguer dans les règles de l'art. Sciences Po est une institution où se croisent quotidiennement des étudiantes, des étudiants du monde entier. On y accueille toutes les pensées. Parce que nous savons que l'ouverture et l'altérité les aident à se construire comme des femmes et des hommes capables de relever les grands défis de leur temps.
On connaît désormais le successeur de Laurence Angèle à la tête de la Bibliothèque nationale de France. C'est l'historien Gilles Pécou, actuellement ambassadeur de France à Vienne depuis 2020. Il prendra ses fonctions le 18 avril. Une journée encore bien ensoleillée ce matin avec quelques nuages bas qui se dissiperont rapidement, de 6 à 10 degrés en général, du nord au sud jusqu'à 13 degrés sur le Pays Basque et le Roussillon.